Allô à tous nos auditrices et auditeurs. Alors, ici Noémie, je suis l'animatrice de la balado Entre deux drapeaux. Alors, maintenant, j'ai avec moi Karyl et Ousmane et on va essayer de parler ensemble aujourd'hui de racisme, d'intégration des nouveaux arrivants à Gatineau et voir si ensemble on peut réfléchir un petit peu aux différentes dynamiques et à l'aspect social, même l'innovation sociale. Bref, on a beaucoup de pain sur la planche. Donc, je vais d'abord demander à Ousmane et Karyl de se présenter un tout petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, Karyl, si tu viens bien commencer en quelques minutes.
Bonjour à tous, je m'appelle Karyl, comme vous l'avez entendu. Puis moi, je suis originaire du Cameroun. Je suis ici quand j'avais 6 ans, donc mes deux parents sont d'origine camerounaise. Puis moi, en général, dans la vie, j'aime beaucoup faire du bénévolat, aider les autres, puis comme quand je peux, je le fais. Donc, c'est un peu ça qui me représente. Je pourrais laisser la parole à Ousmane pour la suite.
Oui, bonsoir. Moi, je réponds au nom de Diawara Ousmane. Je suis licencié en développement international avec quelques notions de base en matière de transit, douane, commerce international. Et puis, je suis finissant dans un programme d'innovation sociale à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Et je suis président fondateur de Accueil Intégration Outaouais, AIO, qui est une organisation à but non lucratif basée dans la région de l'Outaouais, qui a pour but d'accueillir et faciliter l'intégration des nouveaux arrivants de tout horizon dans la région de l'Outaouais et venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité dans la région. Je suis en même temps activiste politique de côté. Puis, je suis beaucoup intéressé par tout ce qui est engagement communautaire. D'ailleurs, c'est pour cela que je me suis retrouvé comme mentor pour le programme ODD avec l'Association canadienne pour les Nations unies. Puis, tout ce qui est développement communautaire, justice sociale, entrepreneuriat social, innovation sociale et l'environnement.
Merci pour la présentation. Donc, si je comprends bien, Karyl, toi aussi, tu as dit là, que tu t'intéresses beaucoup à l'engagement communautaire. Je suis curieuse de savoir quels sont les types de bénévolat que tu fais en ce moment ou récemment dans ta vie.
En ce moment, vu qu'on est tous en ligne, je me suis vraiment développée en sensibilisation. Donc, avec des amis, on a créé des pages Instagram, Messenger, ou bien on sensibilise les gens sur la cause environnementale. Donc, notre projet s'appelle À notre échelle, puis on a vraiment... C'est vraiment bien de parler entre jeunes d'environnement parce que c'est quelque chose qui est un enjeu actuel. Puis avec une amie, en ce moment, on a créé un projet qui s'appelle J'écris. Et ce projet-là, il est en cours de création. C'est un projet d'échange de lettres entre personnes autochtones et allochtones. Parce que pour nous, le Canada est un pays genre, ouvert d'esprit. Puis la diversité, c'est vraiment important. Puis il faudrait aussi que les Premières Nations de ce pays soient écoutées puis entendues. Et que les jeunes, aujourd'hui, sachent ça veut dire quoi, être autochtone en 2021. Donc c'est vraiment un projet qui a pour but l'échange et le partage puis l'ouverture d'esprit. Genre, que des valeurs qu'on apprécie.
Super. Donc, je vois qu'entre les deux, c'est vraiment quelque chose d'important, l'échange, le partage, l'ouverture d'esprit, ça se rejoint vraiment. Je suis d'autant plus contente de vous avoir regroupé aujourd'hui. Merci. Donc, tu vois, Ousmane, peut-être que Karyl voudrait même s'impliquer dans ton projet. Je suis en train de faire des matchs de bénévoles.
Bien sûr que
toujours
oui.
Okay.
Donc, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet avec vous, vu que vous êtes des gens vraiment intéressés à l'accueil, l'échange et le partage. Allons vraiment dans le vif du sujet. Comme Karyl, toi, tu as dit que tu es arrivé ici à 6 ans, de deux parents camerounais. Et puis, Ousmane, j'aimerais t'entendre un petit peu là-dessus. Toi, tu es arrivé quand au Québec environ?
Et bien, moi, je suis arrivé au Québec il y a 2 ans et demi de cela. Et j'ai immigré en tant qu'étudiant au Québec il y a 2 ans et demi de cela. Ouais.
Parfait. Puis, est-ce que je peux te demander, c'était quoi ton pays d'origine?
Bien, mon pays d'origine, c'est la Guinée-Conakry. C'est un pays en Afrique de l'Ouest.
D'accord, parfait. Donc, il y a quand même eu un choc culturel, j'imagine, quand tu es arrivé.
Exactement, oui.
Tandis que toi, Karyl, tu es arrivé à 6 ans. Donc, est-ce que tu te rappelles un petit peu quand tu étais au Cameroun ou pas du tout?
Honnêtement, mes souvenirs du Cameroun sont plus des photos que j'ai encore à la maison. Mais par exemple, je me rappelle encore la route pour aller à l'école puis comme à quoi ressemblait notre maison. Donc, j'ai quelques souvenirs du Cameroun, puis genre, la famille nous appelle de temps en temps au téléphone, donc on garde contact. Cependant, je ne pense pas avoir eu un si grand choc culturel comparément à quelqu'un qui arrive au Canada beaucoup plus vieux. Donc, moi, j'avais juste 6 ans, donc je découvrais le pays en même temps que les autres, donc j'ai pu m'adapter, puis vraiment plus facilement. Mais j'ai entendu, de seconde main, j'ai pu voir ce choc culturel. Je ne sais pas comment dire ça, mais comme, même si je ne suis pas, même si je suis arrivée, genre plus tôt, Genre, j'ai de la famille qui est arrivée plus tard, des parents puis des oncles, puis j'ai pu voir à travers leur visage, à travers leurs yeux, le choc culturel qu'on ressent quand on arrive au Canada.
Très intéressant. Donc, ça serait ça un peu ma première question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez qui sont les plus gros chocs culturels quand on arrive au Canada? Peut-être Ousmane, si tu veux commencer.
Mais comme moi, dans le fond, quand je suis arrivé, vraiment, comme tout était nouveau pour moi, mais je me suis retrouvé dans une société où j'ai vu qu'il y a beaucoup de diversité. Bon, malgré, je suis venu vers Gatineau, dont il y a moins de minorités visibles, mais j'ai su que le Canada en global, c'est un pays où il y a beaucoup diversité. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, ça m'a poussé à plus m'intégrer et moi aussi comme participer au développement de cette communauté. Mais quand je venais d'arriver, par exemple, voilà, je me suis dit, je me retrouve dans un pays où il y a plein de diversité, plein de chocs culturels et tout, mais avec quelques expériences que j'ai vécues ici sur le sujet de racisme et tout. Donc, ça voulait un peu, disons, me décourager de ma destination. Mais quand même, avec l'aide de mes proches, avec l'aide de la communauté, avec l'aide des Québécois, je suis arrivé à m'en sortir en matière de santé mentale. J'ai eu beaucoup de soutien. J'ai eu beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de gens qui ont été là pour moi, beaucoup de solidarité de la part de mes collègues, de la part de mes professeurs. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment généreux. Et je pense que c'est ça. C'est vraiment, malgré il y a une diversité, il y a un choc culturel, mais il y a un côté aussi qui un côté bon, dont on peut parler de discrimination systémique qui fait que les gens ils se sentent moins chez eux que voilà.
Mais en parlant de contact, je suis vraiment d'accord avec toi sur ce point-là. Comme en fait, la discrimination puis le racisme, c'est une question de contact puis de ceux avec qui tu rencontres. Si tu as la chance d'arriver dans une communauté, dans une ville, ou même d'arriver dans un quartier où les gens sont accueillants, tu verras moins la discrimination que si tu es dans un quartier qui est un peu moins ouvert. Par exemple, nous, en arrivant, on a eu beaucoup de chance. On a commencé à Montréal. Puis c'est un quartier vraiment multiculturel. Donc, les centres communautaires étaient on point. Donc, il y avait genre de l'aide pour les immigrants dans ce quartier-là. Mais je me dis, on était arrivé dans un coin un peu plus éloigné de, je ne sais pas moi, de l'Abitibi. Ça aurait été différent. Donc, vraiment, quand on est en contact avec des gens de différents endroits, de différentes nationalités, on apprend par ce même fait à ouvrir l'esprit puis à reconnaître dans l'autre soi-même, personne qu'on veut accueillir et juste aider parce qu'on voudrait qu'on soit aidé ailleurs. Une phrase que j'aime beaucoup, à l'étranger, on est tous étrangers, alors à quoi ça sert d'être raciste? C'est une phrase que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ça nous dit que pourquoi genre, discriminer les autres, pourquoi les comme, rejeter si à l'étranger, tu auras le même sort que tu réserves aux autres? Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Puis par rapport au choc culturel, tout d'abord, il y a la langue. Donc, venant d'un pays francophone du Cameroun, la langue n'a pas été une si grosse entrave à la communication parce que on communique déjà en français, sauf qu'il y a des expressions qui sont plus difficiles à comprendre, du vocabulaire, des terminologies qu'il faudra apprendre sur le terrain. Et ces mots-là, ces terminologies-là, ne sont pas appris aux immigrants. On ne leur dit pas ce mot-ci que vous connaissez comme ça, c'est comme ça qu'on le dit ici. Donc, des fois, il y a des miscommunications, donc des mésententes entre les différentes paroles. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Puis une autre chose aussi, je me rappelle que quand on est arrivé, c'était à la rentrée, puis on devait acheter les fournitures scolaires. Sauf que la liste des fournitures scolaires, des mots comme « duotagne », mes parents ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, les duotagne. Donc, on a dû chercher, puis on a eu la chance d'avoir une amie québécoise qui nous a parrainé lors de cette excursion au centre d'achat. Donc, c'était vraiment une aventure, on a pu découvrir le vocabulaire utilisé à l'école ici. Donc, vraiment, avoir de l'aide de quelqu'un sur place est quelque chose de vraiment... C'est une chance qu'on a, puis genre, c'est une chance qu'il faut en chérir. Donc, merci à tous ceux qui aident les autres juste pour aider les autres. Donc, ça, c'est vraiment un bon message.
Mais j'aime beaucoup vos témoignages parce que justement, on parlait de choc culturel au début, puis ensuite, vous êtes tout de suite allé vers la deuxième question, donc j'adore. C'était vraiment par rapport à comment réussir à améliorer l'accueil des nouveaux arrivants au Québec. Mmh. Donc, vous avez déjà donné des belles pistes de solutions, que ce soit le soutien, le contact. Est-ce qu'il y aurait aussi le fait, Ousmane, t'avais parlé de santé mentale, donc ça doit être difficile quand on arrive, on ne sait pas où aller trouver de l'aide, on ne sait même pas si on a droit de demander l'aide, comment ça peut fonctionner, que ce soit Caril, l'expérience des gens que toi-même t'as aidé ou Simon, ton expérience, je ne sais pas qui des deux voudrait commencer.
Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est ça, comme mettre en place des organismes. Déjà, moi, je le fais, comme qui pourront venir en aide à ces personnes en matière de santé mentale, parce que on sait que, mais moi, j'ai remarqué et avec mes propres expériences, j'ai remarqué que les nouveaux arrivants à leur arrivée, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Mais je vais prendre l'exemple sur mon histoire et tout. Donc, il faut vraiment des gens qui doivent être là pour soutenir ces gens, leur apporter des soutiens en ce qui concerne la santé, en matière de santé mentale. Donc, moi, je trouve ça vraiment un facteur qui peut améliorer l'accueil des nouveaux arrivants partout au Canada ici. Ouais. Et aussi, pour de plus améliorer l'accueil des nouveaux arrivants, mettre en place aussi des services qui pourront faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, comme des organismes qui pourront aussi le guider vers ces services aussi. Et par exemple, moi, avec mon organisation, ben, c'est une organisme qui a été créée en pleine pandémie, ça n'a pas été facile, ouais. Mais par exemple, on a eu des stratégies comme informer les nouveaux arrivants des possibilités de s'intégrer avec les activités communautaires, des possibilités de bénévolat et faire en sorte de créer une connexion entre les nouveaux arrivants et les personnes qui ont déjà beaucoup vécu ici au Canada, qui ont beaucoup d'expérience. Ça, on le fait en peut-être organisant les activités communautaires, des soirées culturelles, des journées d'information et de réseautage entre les nouveaux arrivants, les élus locaux, puis les employeurs aussi. Parce que l'emploi aussi, c'est un facteur qui pourra beaucoup aider pour l'implication. Donc, nous, on utilise en quelque sorte cette stratégie pour mieux intégrer les nouveaux arrivants dans la région.
Mais par rapport à les aider à s'intégrer dans une région, c'est vrai qu'un groupe d'entraide est toujours quelque chose d'utile. Par exemple, si, prenons, soyons clairs. D'abord, c'est quoi les besoins des nouveaux arrivants? Un nouveau arrivant a besoin d'un logement. Et c'est souvent très difficile pour un nouveau arrivant de trouver un logement. Donc, s'ils n'ont pas déjà la famille sur place ou bien s'ils n'ont pas des contacts, trouver un logement sera très difficile. Ils vont passer beaucoup de temps dans l'hôtel puis perdre beaucoup d'argent. Donc, s'ils connaissaient des logements, si on leur donnait accès genre à un logement temporaire, le temps qu'ils trouvent un emploi stable, ça serait vraiment quelque chose de gratifiant puis d'utile. Par rapport à l'emploi, justement, un des trucs qui manque, c'est la reconnaissance des diplômes. Donc, plusieurs personnes qui réussissent à arriver au Canada ont déjà un diplôme dans leur pays d'origine. Sauf que ces diplômes-là sont vraiment difficilement, convertis. Puis, ils doivent souvent retourner aux études. Et même quand ils retournent aux études, ils ont souvent du mal à comme, trouver un emploi parce qu'il leur manque l'expérience québécoise. Mais on ne peut pas avoir d'expérience québécoise si on ne laisse pas la chance d'expérimenter dans un milieu de travail. Donc, par exemple, j'ai un oncle, lui... il était médecin au Cameroun, puis il a refait ses études. En revenant ici, il a refait ses études, puis il a mis à jour son diplôme. Donc, il a dû retourner à l'école malgré déjà ses compétences. Mais ça, ce n'est pas le souci, c'est normal. Sauf qu'il n'a pas réussi à trouver un emploi ici parce qu'on lui disait « vous n'avez pas l'expérience québécoise », alors que c'est une personne qui a travaillé dans la médecine pendant de nombreuses années au Cameroun. Puis c'est une chose qui l'a vraiment freiné, puis il a fini par devenir médecin sans frontières. Ce n'est pas une chose mauvaise, mais juste pour dire que s'il y avait de l'aide pour que les personnes qui commencent à travailler connaissent c'est quoi les normes sociales adaptées dans un milieu de travail, qu'on leur accompagne, qu'ils aient des mentors. Ça, c'est une bonne idée. On devrait avoir des mentors à nous
faire ici. Oui, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée.
Parce que
Oui,
Vas-y, t'attends.
comme le sujet que tu viens d'aborder avec les nouveaux arrivants dont leurs diplômes ne sont pas reconnus au Canada, au Québec, j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Vraiment, c'est ça. Il y a le gouvernement aussi, nos différents représentants doivent faire quelques efforts dans ce cadre afin de reconnaître aussi les nouveaux arrivants qui viennent avec leurs diplômes pleins de talents pour qu'ils puissent mettre ces talents en exercice et développer leur communauté qui leur accueille.
Puis même si les diplômes ne sont pas reconnus, ce serait vraiment nice qu'un programme qui compléterait les crédits, en fait. Donc,
Ouais.
si le diplôme au complet n'est pas reconnu, que certains crédits leur soient attribués pour leur expérience plus facilement. Comme ça, ils ont juste à compléter les crédits manquants puis pouvoir avoir leur diplôme facilement et être en mesure d'accéder au marché du travail beaucoup plus facilement. Donc, c'est quelque chose qui serait vraiment, vraiment cool d'être instauré. Ce serait vraiment quelque chose d'utile, puis je pense que ça aiderait beaucoup de personnes.
Ouais.
Si je comprends bien, vos deux priorités, là, si vous étiez, amusons-nous, vous étiez les deux co-premiers ministres du Québec, ça serait vraiment le logement, la reconnaissance des diplômes, puis
Des
avec ça,
diplômes,
une couleur d'adaptation aux normes sociales, parce que Caril, j'ai aimé
oui.
ça quand tu as dit, par exemple, mentor. Donc, ça serait bien, effectivement, la reconnaissance des diplômes, mais en plus, accueillir vraiment les gens pour ce que tu appelais l'expérience québécoise. Donc, ça serait un peu des mentors de vie, finalement, autant dans le milieu de vie que dans la recherche d'un logement, que dans l'intégration sociale. Une forme de mentor.
Par exemple, en arrivant ici, on a eu de la chance. On a eu une famille québécoise qui nous a beaucoup aidés. Par exemple, ils nous ont montré c'était quoi, genre les endroits, les centres d'aide, donc pour trouver des vêtements à petit prix. Parce que, genre, c'était où les centres communautaires, c'était quoi les opportunités d'emploi, comment ça marchait, aller prendre le bus, le métro ici. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment simple comme ça, qui paraît évident, mais comme quand tu ne sais pas comment ça marche, c'est juste utile de savoir qu'il y a quelqu'un à qui tu peux poser la question et qui va te le répondre. Donc, avoir un
Ouais.
mentor, c'est ce que tu peux compter lors de tes premières semaines, des premiers mois, c'est quelque chose de vraiment important. Puis, dans le milieu de l'emploi, je pense que ça pourrait être applicable aussi. Pour avoir des périodes d'essai aussi. Donc, genre, je ne sais pas comment dire ça, mais comme, je ne sais pas comment ça marche dans le milieu de l'emploi plus vieux, parce que j'ai juste 17 ans, mais avoir des périodes d'essai aussi. Donc, pendant un mois ou bien deux, tu te fais suivre, puis, genre, on te teste sur ce que tu sais, puis on te complète. Genre, on te dit, genre, ah, il manquerait ça, puis là, tu vas chercher ce qui te manque pour pouvoir commencer à travailler plus facilement. Donc, ce genre de période d'essai, c'est quelque chose de vraiment une bonne alternative à retenir aux études au complet. Je pense que ça serait vraiment parfait parce que les gens qui sont capables de traverser l'Atlantique au complet pour venir s'installer dans un pays, c'est quelqu'un sont des gens qui sont prêts à s'adapter et à apprendre des autres. Donc, il y a cette envie de s'intégrer que nous, les immigrants, on a. Genre, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est une envie de s'intégrer et que quelque chose se passe bien. Puis, on est ouvert au changement. Puis on est ouvert à l'apprentissage, on est ouvert aux mœurs, on est ouvert à s'adapter à ce qui arrive. Puis on est aussi ouvert à partager nos connaissances, parce qu'il y a des choses qu'on fait différemment, mais qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Donc c'est un échange, c'est un partage de connaissances, puis ça se fait dans les deux sens.
J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit par rapport au partage des connaissances, c'est que souvent, par exemple, moi, en tant que Québécoise qui est née ici, puis dont les parents sont nés ici aussi, on entend souvent le discours de ah, faut aider les nouveaux arrivants, faut aider les nouveaux arrivants. Mais je pense que tu touches un bon point, Caril, c'est que les nouveaux arrivants peuvent nous aider aussi.
Ouais.
Donc, qu'est-ce que vous croyez, Ousmane? Tiens, qu'est-ce que tu penses qui est le plus grand atout d'un nouvel arrivant pour une société?
Mais par exemple, les bénévolats que les nouveaux arrivants ils font, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui sont intéressés à s'impliquer, à aider les gens, à venir en aide surtout aux personnes âgées et tout. Donc, moi, je pense que le bénévolat que les nouveaux arrivants ils font, ça rend vraiment, ça aide beaucoup la communauté. Par exemple, moi, d'ailleurs, je suis nouveau arrivant aussi parce que je n'ai pas duré comme Caril, mais voilà, j'ai eu l'occasion de créer mes projets, par exemple, des projets qui sont rentrés dans le développement communautaire. Donc, je pense que ces facteurs comme ça, les nouveaux arrivants, ils participent beaucoup au développement de la communauté.
Mais je suis d'accord avec toi. Par exemple,
Ouais.
en ce moment, on manque de main-d'œuvre, surtout sur le secteur de la santé parce que la population est vieillissante. Puis il y a de
Exactement.
moins en moins de gens qui sont disponibles, qui ont envie de travailler avec les personnes
Ah,
âgées. Et
exact,
ces emplois-là
exactement.
ne dérangent pas. Genre, nous, nouveaux arrivants, on veut du travail. Donc, ça ne dérange pas de travailler dans ce genre d'endroit. Donc, on pourrait combler des postes qui sont en ce moment, qui ont besoin de personnes. Puis en plus de ça, je pense que en plus de notre vision différente des choses, à part d'apporter juste une vision différente, on a des valeurs qu'on apporte différemment. Par exemple, il y a la valeur de l'éducation. Moi, en tant que personne qui ne vient pas qui n'est pas née ici, genre, les trucs que je ne prends pas pour acquis. Genre, je sais la chance que j'ai de pouvoir aller à l'école tous les jours, d'apprendre. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est une valeur qui guide mes actions tous les jours parce que je vois autour de moi des gens qui se disent, oh, l'école, c'est pas important. Oh, l'école. Mais comme je sais, vu que mes parents se sont sacrifiés pour que je puisse aller à l'école ici, genre,
Allez, ça va, oui.
j'ai des valeurs pour ça. Genre, j'ai envie que mon éducation se passe bien. Donc, ce sont des valeurs comme la persévérance, l'éducation, l'envie de bien faire les choses, ce sont des choses qu'on apporte avec nous. Puis juste aussi d'aider les autres, parce qu'on vient d'ailleurs, donc on a déjà nécessairement une vision différente des choses, puis une ouverture d'esprit qui est différente aussi. Donc, je ne sais pas comment dire ça. Je ne
Oui,
dis
c'est
pas
ça,
que
mais
les gens
je
n'ont
suis
pas.
vraiment d'accord avec toi qu'on a juste le sentiment d'aider les gens, d'aider les autres, voilà, aider la communauté qui nous a accueillis.
C'est
Exactement.
ça. On veut
Ouais.
redonner à ceux qui nous ont donné, puis
Redonner,
on veut bien faire
exactement.
les choses.
Exactement.
Très intéressant. Je souligne dans le fond finalement quatre valeurs que les nouveaux arrivants peuvent vraiment nous amener. C'est le souci de la gratitude, de la persévérance, de la solidarité et de l'ouverture d'esprit. Je suis sûre qu'il y en aurait plein d'autres, mais je suis vraiment intéressée là, qu'on revienne sur ces quatre-là. Donc, forcément, c'est ces quatre valeurs qui peuvent vraiment être utiles à notre société définitivement. Donc, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ça, ben on va rentrer dans un sujet qui est encore, somme toute, assez tabou. On a commencé un tout petit peu au début, c'est le sujet du racisme, surtout au Québec. Ici, on ne fera pas de politique aujourd'hui. En même temps, on va quand même souligner que le racisme systémique existe au Québec. Donc, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que vous pensez sont des pistes, très, très grande question. Quelles seraient les pistes pour arriver à un Québec meilleur, un Québec sans racisme? Quelles seraient selon vous les pistes de solution? On s'amuse encore comme si vous étiez des co-ministres. Selon vous, là, quelle serait la base pour lutter contre le racisme au Québec? Ça serait ça ma question, là. J'ai tourné autour du pot, là.
Oui.
Quelle serait la meilleure façon de lutter contre le racisme au Québec selon vous?
Mais tu sais, comme toi, Naomi, comme tu viens de le dire, que le racisme systémique, ça existe vraiment au Québec, puis tu le reconnais. Donc, moi, je pense que le premier job que nos autorités, les représentants, ils doivent faire d'abord, c'est d'abord avouer l'existence du racisme systémique au Québec. Donc, parce que si y a des gens, par exemple, qui ont eu des mauvaises expériences, qui ont eu des expériences vraiment néfastes avec le racisme, entendent que jusqu'à présent, il y a des gens qui n'admettent pas que le racisme systémique existe au Québec, ils vont se sentir indignés et ils vont pas faire d'efforts pour éliminer pour participer à l'élimination de ces fléaux. Donc moi je pense que le fait de reconnaître le racisme systémique, ça peut faire un grand pas pour lutter contre le fléau. Et je pense aussi le fait de c'est pas une manière de révolter les gens, mais le fait de le dénoncer des fois, c'est aussi la bonne manière, parce que on a tout récemment vu au suite des événements qui sont passés aux États-Unis avec la mort de George Floyd, qui a explosé le mouvement Black Lives Matter, qui a pris de l'ampleur partout dans le monde, même au Québec ici. Donc, avec des mouvements comme ça, les autorités se sont revenues sur le racisme, sur le projet de racisme systémique, et puis ça les a remis en question. Donc, moi, je pense que le premier job, c'est d'abord reconnaître le fléau. Puis aussi les gens qui traversent ces les gens qui sont victimes n'ont qu'à avoir le courage de leur dénoncer.
Par rapport au courage de dénoncer les choses,
Ouais.
très souvent, les personnes victimes de discrimination ne savent pas comment faire valoir leurs droits. Donc, la question de l'éducation est quelque chose qui revient encore une fois. Donc, ce qui serait vraiment utile pour lutter contre le racisme, c'est d'abord éduquer les personnes, éduquer les gens en général sur ce sont quoi vos droits. Qu'est-ce que vous devez faire quand on vous parle de cette manière-là? C'est quoi vos droits? Parce que comme des fois, nous, en tant qu'immigrants, ce sont des choses qu'on ne connaît pas, c'est des choses qu'on n'a pas apprises. Donc, peut-être apprendre à connaître nos droits sont quelque chose de vraiment important. Puis aussi, le rôle du gouvernement dans tout ça, ça serait d'encourager, je sais que ce n'est pas la solution miracle, mais encourager les quotas. Okay? Je sais que ce n'est pas la solution miracle, la chose, mais les quotas qu'on met dans les entreprises, dans les services publics, vont permettre une représentativité de la chose. Okay? Donc, des personnes de toute origine dans différents postes pour montrer alors qu'il est possible que ces gens-là aient accès à ces postes-là, parce que maintenant, la plupart des postes qui sont haut placés ou bien dans des institutions ne sont pas vraiment, comment dire, diversifiés. Donc, si on avait des gens dans ces postes-là, ça montrerait aux jeunes générations que oui, c'est possible d'être là-bas. Puis, il n'y a rien de mal à ce qu'une femme noire soit comme chef d'entreprise ou bien que un homme d'un autre pays ait un autre métier. Donc, en gros, le fait que ce soit représentatif dans les médias, dans les emplois en général, montrerait une ouverture, une facilité. Donc, ça deviendrait la norme d'être diversifié. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est une des choses qui pourrait être faite. Genre, l'application de quotas dans les différentes entreprises serait quelque chose de bien. Puis d'apprendre nos droits plus jeunes, ça aussi, c'est quelque chose de bien. Puis aussi le voyage. Donc, inviter les gens à voyager. Mais qu'on pourra le faire après la COVID, mais inviter les gens à voyager, à sortir de leur bulle pour apprendre à connaître le monde. C'est juste va leur ouvrir l'esprit, puis comme leur permettre de comprendre que ma vision des choses n'est pas forcément la bonne. Puis j'ai tellement à apprendre des autres, j'ai tellement à voir de ce que les autres font, à ce que la manière dont les choses se passent, je peux faire quelque chose pour changer les choses parce que j'ai vu et je comprends comment ça marche. Donc le fait de ce que tu dis, d'acknowledge, on a besoin en français, de se rendre compte, d'accepter le problème, parce que le premier pas vers la solution, c'est de remarquer et d'accepter qu'il y a un problème, comme l'a dit Haussmann.
Alors, si je peux récapituler votre pensée, il y a vraiment, ben, d'abord le reconnaître, hein, Ousmane, merci, ça peut paraître anodin, mais non, c'est vraiment la base. Ensuite, le dénoncer. Puis là, Karil, tu as amené un super bon point, c'est pour pouvoir le dénoncer, il faut pouvoir le reconnaître. Donc, il y a vraiment de l'éducation à le faire par rapport, par exemple, aux nouveaux arrivants et aussi les Québécois de souche aussi qui sont victimes de racisme, hein, oublions-le pas. Donc, éduquer de manière générale, en effet, parce que, bon, en effet, on parle des nouveaux arrivants, mais il y a des gens qui sont troisième génération au Québec et qui vivent encore du racisme. Ensuite, ben, encourager les quotas, tu l'as bien dit, hein, c'est une solution tampon, hein, c'est pas ça qu'on veut pour la durée, mais pour avoir peut-être une certaine fierté aussi, là, d'avoir, par exemple, comme tu disais, une femme noire dans un rôle de un poste de direction, tu sais, en faut plus, en effet. Puis finalement, j'attire mon attention aussi sur ton dernier point, Karil, qui était vraiment le voyage. Ça, c'est plus inusité. Je trouve qu'on l'entend un peu moins. Puis je pense que c'est le fun de rencontrer deux personnes jeunes aujourd'hui avec des idées nouvelles. Le voyage, il y a différentes formes de voyage. Donc, tu sais, Karil, je pense pas que tu parles nécessairement du tout inclus une semaine à Cuba, là. Tu parles de quel genre de voyage? Pourquoi le
Exactement,
voyage?
je voulais poser la même question parce que comme on sait que les Canadiens, les Québécois sont des grands voyageurs, donc en matière d'ouverture d'esprit, je pense que là, ils voyagent beaucoup, là.
Mais je parlais plus des endroits un peu comme, par exemple, à l'école, on avait un voyage au Costa Rica où on faisait du bénévolat. Ben, je ne l'ai pas fait ce voyage-là, mais c'est un voyage qui était offert par l'école où on faisait du bénévolat pendant 3 semaines au Costa Rica. Mais genre, peut-être voyager dans des pays qui sont différents du nôtre, avec son sac à dos, puis genre, apprendre à connaître la communauté locale. C'est quelque chose aussi que, genre, faire un pas vers l'autre. Puis les voyages, c'est aussi une occasion de le faire. Pas nécessairement besoin d'aller voyager, je ne sais pas moi, jusqu'en Inde, mais juste peut-être même au sein du Canada lui-même. Peut-être visiter des réserves autochtones pour apprendre leur culture, aller en Abitibi, genre juste apprendre à connaître plus de monde possible pour élargir sa vision du monde.
J'ai aimé ce que tu avais dit au début de la conversation par rapport à ça, puis je pense que ça va être un peu le mot de la conclusion déjà. Ça fait déjà une belle demi-heure qu'on parle. Je vais vous laisser le mot de la fin tout de même. Karil, tu avais dit au début de la conversation que pour une personne, ça peut être bon de vivre c'est quoi être un étranger ailleurs. Donc, ça serait un peu ça, le voyage, non? C'est de vivre c'est quoi aussi être un étranger ailleurs. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez un mot de la fin sur ce qu'on a dit aujourd'hui? Comme j'ai dit, ça va passer super vite, une demi-heure. Quelles seraient d'autres pistes de réflexion pour la suite, vous pensez?
Mais en tant qu'individu, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le racisme. C'est ça que je me pose comme question, puis genre je vous la pose à vous deux, puis même aux téléspectateurs qui sont avec nous, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu pour lutter contre le racisme? C'est une question ouverte.
C'est une super bonne question. On a beaucoup parlé de solutions collectives aujourd'hui, puis les solutions individuelles, il y en a plein aussi. Donc, Ousmane, Karil, je voulais vraiment vous laisser la parole ici d'abord. Qu'est-ce que vous pensez qui seraient des solutions individuelles pour lutter contre le racisme?
Mais comme Ousmane fait, faire du bénévolat, tout simplement. Oui, c'est ça. Trouver un coin dans son quartier ou bien dans sa ville où on peut faire du bénévolat. C'est quelque chose qui est vraiment facile à faire. Puis comme c'est de l'expérience de travail, c'est bon sur un CV. Puis genre, ça aide aussi à avoir des contacts humains différents, comme mentionné plus tôt. Genre, donc, je pense que le bénévolat, c'est l'une des solutions, pas miracle, mais c'est une très bonne solution pour aider les autres, puis s'aider soi-même en apprenant à connaître les autres.
Oui, rentrer beaucoup en contact avec les gens aussi.
Oui, c'est très bien. Vous avez vraiment raison, là, le bénévolat, entrer en contact. Puis j'ajouterais justement, vu que moi, je suis une personne blanche, c'est de reconnaître nos privilèges aussi. C'est un peu comme Ousmane disait, reconnaître le racisme, ça vaut pour nous aussi. Donc, de manière individuelle, c'est vraiment d'avoir une introspection. Tu sais, ça veut dire quoi être blanche? Ça veut dire quoi avoir des privilèges? Qu'est-ce que je vais faire de ces privilèges? Comment je vais m'éduquer? Pas constamment demander à mes amis noirs comment vivre certaines choses. C'est vraiment à moi aussi, comme personne blanche, de faire mes propres recherches. Donc, ça serait de mon côté mes pistes de solution pour amener ma petite contribution.
Déjà, se poser la question de comment on peut aider, c'est tellement un gros pas. Donc, genre, juste se poser la question de comment je peux aider, c'est quelque chose de gros. Si vous le faites en ce moment, je vous dis bravo, puis je vous dis merci. Puis genre, vous participez à faire que notre Québec, notre Canada, soit juste plus facile pour les autres générations qui vont venir ensuite d'être Québécois et Québécoises et fiers de l'être.
Oui, d'ailleurs, Naomi, j'apprécie ta solution individuelle. Le fait de le reconnaître, c'est vraiment un grand pas pour lutter contre ce fléau, vraiment. Ouais.
Bien, merci. Je vais vraiment vous laisser avec les quatre valeurs que vous avez amenées tout à l'heure. Donc, gratitude, persévérance, solidarité et ouverture d'esprit. Je trouve que ça conclut très bien cet entretien. Merci beaucoup, Sman. Merci beaucoup, Karil, pour cet échange.
Merci
beaucoup. Merci à toi.
Merci à toi. Bonne journée.